France Info.
De France Info, jusqu'à 9h comme tous les matins. Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bernstein est là également avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est porte-parole du gouvernement.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Journée spéciale sur France Info, nous analysons le bilan de François Hollande à 5 ans à l'Élysée. Avant de parler de cela, parlons de la Syrie, un massacre, un bombardement à l'arme chimique, 86 morts au moins, 30 enfants. Les États-Unis menacent d'agir seuls si le Conseil de sécurité des Nations Unies n'arrive pas à adopter une résolution qui fera que le régime de Bachar el-Assad ne sera pas impunis après ce bombardement, la France pourrait soutenir une action unilatérale des États-Unis.
Je voudrais rappeler que la France, et ça fait partie du bilan de François Hollande, avait eu une position extrêmement claire et ferme en 2013, qu'une attaque aérienne était prévue et que les États-Unis, à l'époque, M. Obama, n'avait pas souhaité aller jusqu'au bout. Résultat, 4 ans après, on constate une nouvelle fois un crime de guerre. Crime de guerre proféré par Bachar el-Assad. Et quand je pense que certains nous ont vanté l'axe Bachar-Poutine...
Certains, vous voulez dire qui ?
Certains candidats.
Vous parlez de François Fillon,
de Marine Le Pen qui va voir M. Poutine, de Jean-Luc Mélenchon qui avait eu aussi quelques mots pour Bachar el-Assad. Je voudrais que chacun prenne bien la mesure de ce qu'est une diplomatie, de ce qu'est la responsabilité d'un président de la République face à l'histoire. Voilà. C'est un message très, très clair qu'il faut faire passer ce matin. Et la France s'est associée avec la Grande-Bretagne et les États-Unis pour obtenir une résolution.
Un projet de résolution
voilà.
que la Russie ne votera pas.
Qui bloque
la question
la Russie.
Elle est prématurée pour l'instant. S'il y a une action unilatérale des États-Unis, comment réagir à la France ?
D'abord, les États-Unis ont annoncé qu'ils pourraient agir
seul.
S'il n'y a pas de résolution. Ouais. Il y a des discussions qui doivent se dérouler aujourd'hui. Mais je rappelle que la France était prête à agir en 2013, déjà, et de manière très claire.
Est-ce qu'il y a un nouveau changement de la doctrine française ? C'est-à-dire, on a compris ces derniers mois qu'il y avait un ennemi de premier rang qui était Daesh, et donc un ennemi de second rang qui était Bachar. Est-ce qu'on revient là-dessus ? Est-ce que Bachar est à nouveau ? Non.
Non, on ne revient pas là-dessus. L'ennemi
Daesh est
de
l'ennemi
premier... Mais bien sûr, il y a une guerre qui est engagée contre le terrorisme. Le terrorisme frappe partout. Partout, il a encore frappé d'ailleurs en Russie. Là où Marine Le Pen a pu aller voir M. Poutine, eh bien même chez M. Poutine, avec le nombre de soldats et de policiers, il y a eu des attentats. Donc la lutte contre le terrorisme...
Départ de Bachar n'est pas un préalable.
Il n'y a pas de préalable. Lutte contre Daesh.
Il y en a eu.
Partout.
Il y en a eu.
Non, c'est pas vrai. Sur la question de la Syrie,
d'accord.
La question qui était posée, c'est la reconstruction politique peut-elle passer par le maintien de Bachar ? Ça a été non depuis le début, mais ça n'a rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Pourquoi vous dites qu'il y aurait ou l'un ou l'autre ? C'est faux. Et l'un et l'autre. Et en premier, la lutte contre le terrorisme. Et en deuxième, si on veut trouver une solution politique à la Syrie, c'est toujours ce qui a été la position de la France, toujours réaffirmée par le président de la République. Ça ne peut pas se faire avec le maintien de Bachar el-Assad. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce qui s'est passé. Et encore une fois, hier ou avant-hier.
Et est-ce que nous, on frapperait avec les Américains sans mandat de l'ONU, oui ou non ?
Attendez, vous me posez des questions. Mais je vais vous répondre. Je ne suis pas, pour l'instant, président de la République, je crois.
Ah.
Je suis invité comme porte-parole du gouvernement. Donc je ne vais quand même pas, moi-même, ce matin, sur France Info, même si ça pourrait faire beaucoup de dépêches AFP, annoncer une intervention de quel que soit l'enjeu de la France. C'est le président de la République. Il y a des discussions à l'ONU aujourd'hui. Je rappelle simplement, et ça c'est un fait, que le président de la République, en 2013, était prêt à frapper.
Jean-Michel. Journée spéciale sur France Info, donc nous analysons le bilan de François Hollande, 5 ans à l'Élysée. Comment qualifieriez-vous ce bilan, Stéphane Le Foll ?
En tout cas, je sais une chose, quand je vois les débats de la présidentielle
aujourd'hui. Ma question est le qualificatif
pour
le bilan.
Le qualificatif. Je sais une chose, c'est que la France d'aujourd'hui, en 2017, elle est en bien meilleur état que celle que nous avons trouvée en 2012.
Si c'était le cas, François Hollande serait candidat à sa succession.
Ça, c'est un syllogisme un peu bizarre.
Ah bon ?
Oui, parce que malheureusement, il n'est pas candidat.
Oui.
Mais vous vous rendez compte comment vous, j'interprète ce que vous dites. C'est il n'est pas candidat, donc la France va mal.
Bah, en tout cas, vous dites il n'est pas candidat. Vous dites elle va mieux et donc il n'est pas candidat.
Mais parce que là aussi...
On est deux pas si logiques là.
Non. Moi, j'ai
en
une
cas,
logique.
C'est
les résultats.
Les Français s'en sont pas rendus compte.
Oui. Parfait. Les Français ne se sont pas rendus compte. Ça fait 5 ans qu'on le répète. Il y a eu un engagement du président de la République sur la question du chômage qui arrive en fin de quinquennat, trop tard par rapport à l'engagement qui était celui du président de la République, mais qui arrive. Plus de 200 000 créations d'emplois dans l'économie marchande en France, c'est du jamais vu depuis 2007, c'est-à-dire avant la crise. Des investissements dans l'entreprise qui atteignent 4%, c'est des chiffres qu'on n'avait jamais connus depuis plus de 10 ans. La prévision de croissance de l'INSEE, revisée 0,03, 0,4 à 0,5 au deuxième trimestre, un point au moins de croissance et d'acquis de croissance dès juin 2017. Celui qui arrivera, ou celle qui arrivera, eh bien, trouvera un pays qui retrouve de la dynamique. Ce n'était pas le cas quand nous sommes arrivés. Il n'y a qu'à se rappeler d'un exemple, moi qui me frappe à chaque fois, c'est PSA lorsque François Hollande arrive en 2012.
Oui.
On dit que c'est pratiquement une entreprise qui va peut-être tomber en faillite. Elle est possiblement rachetable par General Motors. 5 ans après, PSA est une entreprise...
Elle a été rachetée par des Chinois au lieu d'être rachetée par des Américains.
Non, elle n'a pas été rachetée. Une ouverture de capital.
Ouverture
le
de capital,
capital
chinois
dans
l'État.
Lequel l'État a pris sa part, des Chinois. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire quand même, PSA a racheté une entreprise d'automobile allemande, Opel, à General Motors.
PSA,
on a inversé des choses.
PSA, c'est une bonne illustration des hésitations du président de la République en matière économique. Le 12 juillet 2012, PSA présente son plan avec le projet de fermeture de l'usine d'Aulnay. Et vous savez ce que dit François Hollande le 14 juillet 2012? Ce plan ne sera pas, n'est pas applicable et ne sera pas appliqué. Et puis il l'a été, c'est ce qui a sauvé Peugeot.
Oui. Ce qui a sauvé Peugeot. Vous
voyez comment...
Jean-Michel Apathy, encore une fois, l'habitude du bashing depuis 5 ans.
Donc,
Peugeot a été sauvé par la prise de capital. Peugeot a été sauvé par l'accord qui a été trouvé. Attendez,
Peugeot a été sauvé par le plan qu'il a mis en œuvre, puis par le capital.
L'accord qui a été trouvé avec les syndicats, qui s'est appuyé sur un accord défensif, loi de Michel Sapin, vous oubliez de le dire. Et puis, le fait que le CICE, comme le pacte de responsabilité, ça a été rappelé par le PDG de Peugeot, mais tout ça, vous cherchez à l'oublier, ça fait partie de ce qui a permis un redressement d'une entreprise française. Une entreprise française d'automobile rachète une entreprise allemande de l'automobile. Ça mériterait, au lieu d'être tout le temps dans le négatif, de regarder de temps en temps, et c'est mon rôle, c'est le vôtre de critiquer, c'est mon rôle de le défendre, de dire que ça, ça fait partie du bilan.
Et le bilan.
Et ça, c'est un bilan positif.
Et on n'a pas fini de regarder ce bilan de François Hollande, il est 8h40, Victor Maté, là pour une minute.
Le débat télé d'avant-hier était inédit et il le restera face aux critiques de certains favoris. France 2 renonce finalement à organiser une nouvelle soirée. Elle était programmée le 20 avril, 3 jours seulement avant le premier tour. François Fillon, ce matin, chez nos confrères de France Inter, le candidat de la droite promet de poursuivre en justice ce qu'il accuse d'avoir déclenché les affaires le concernant. François Hollande en tête. François Fillon tacle également Marine Le Pen, la victoire de l'extrême droite plongerait la France dans le chaos. Donald Trump, lui, hausse le ton envers Bachar al-Assad. Le président américain dénonce un affront pour l'humanité et de nombreuses lignes franchies après l'attaque chimique de mardi. Au moins 86 morts, dont de nombreux enfants. Après le report du vote d'une résolution à l'ONU, la France et les autres membres poursuivent les négociations. Et puis Innocence en danger lance une campagne d'information pour casser la loi du silence sur les violences faites aux enfants, en particulier sexuelles. D'après l'INSEE, rien qu'en 2015, plus de 150 000 enfants ont été violés ou victimes d'attouchements sexuels. Cela fait un cas toutes les 3 minutes.
France Info. C'est Stéphane Le Foll qui est avec nous sur France Info jusqu'à 9h. Question Gilles Bernstein.
Le 1er décembre dernier, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, François Hollande a renoncé à se présenter. Je pense que vous vous, vous souvenez même.
Ouais,
je
très
sais
bien.
Que, et comme je sais que vous ne l'avez pas écouté, eh bien vous allez l'écouter maintenant.
Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle.
Est-ce que Manuel Valls a été déterminant dans cette décision du président de la République de ne pas se représenter ?
Je n'en sais rien.
Si, bon, un petit peu quand même.
Je me souviens bien d'avoir été invité un matin ici avec une dizaine de questions répétées. Je n'en sais rien. Dans tous les facteurs qui ont joué, il y en a de nombreux. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'on gouverne la France et que c'est difficile, et ça a été difficile, et les critiques n'ont cessé, que ce soit du côté de la gauche, que ça soit du côté de la gauche du PS, avec la Fronde, que ça soit du côté de la droite, et j'entendais tout de suite que François Fillon veut poursuivre en justice le président de la République, franchement...
Alors...
C'est ce que ça vient d'être dit.
Parlez. Alors, je ne sais pas. Peut-être nos auditeurs ne le savent pas. C'est ce que François Fillon vient de dire sur France Inter.
Voilà, c'est ça.
On l'écoute.
Le moment venu, je poursuivrai tous ceux qui sont à l'origine de cette affaire.
Vous dites à nouveau dans le point qui paraît ce matin, c'est François Hollande qui a déclenché l'affaire.
Oui, bien sûr.
Croyez-vous mais c'est François Hollande.
Bien sûr.
Franchement. Franchement. Entendre ça ce matin, là, hein, oui, j'arrive, j'entends ça. Un candidat à la présidentielle, membre d'un parti de gouvernement, dire que s'il est élu, il enclenchera des poursuites contre le président actuel au nom du fait qu'il l'a dit ou il soupçonne qu'il ait engagé...
il a déclenché l'affaire.
Mais c'est parfaitement... La justice, et ça, François Fillon ne veut pas l'accepter, et ça fera partie du bilan de François Hollande, a été indépendante dans les choix, dans la conduite des affaires judiciaires. C'est un acquis de ce quinquennat. Et entendre quelqu'un revenir dessus, d'ailleurs, la droite qui n'a jamais voulu voter la réforme du Conseil supérieur de la magistrature pour assurer définitivement cette indépendance, la droite n'a jamais voulu le faire, entendre ça, ça veut dire qu'encore une fois, on est dans cette forme de volonté de suspicion, d'insinuation, de manière de faire de la politique qui, je le dis, n'est pas à la hauteur de ce que doit être un engagement d'un homme politique pour gouverner un pays.
Vous l'entendez, Stéphane Le Foll, je sais pas, quand vous allez sur les marchés, vous entendez sans doute des gens qui vous disent « Mais enfin, c'est quand même vraiment quel heureux hasard, ça sort maintenant, le dossier est tout ficelé, il y a toute la vie de François Fillon. » Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un travail ordinaire des journalistes ou de la justice qui a conduit aux embarras que connaît François Fillon.
Le canard enchaîné dont... François Fillon a utilisé un certain nombre de bonnes feuilles sur le fameux livre.
C'est un livre écrit par deux auteurs du Canard Enchaîné. Livre dont le Canard Enchaîné dit qu'il vient pas du
même,
canard.
Le même donc, François Fillon qui dit que le Canard Enchaîné, bien sûr, aurait été alimenté, lui, par...
Par le cabinet noir.
Cabinet noir.
Mais comment on peut...
Il n'y a pas de cabinet noir, ça n'existe pas.
Mais ça n'a jamais existé.
Ça n'a jamais existé.
Dans le passé.
Ah.
Oui, mais attendez.
Dans le passé, c'est-à-dire...
L'accusation, elle m'a été portée par Nicolas Sarkozy. J'étais à la tête du cabinet noir. Et j'avais répondu très simplement. Moi, j'étais à la tête d'un cabinet. Oui, directeur de cabinet. Ça, je m'en souviens. Au Parti Socialiste. C'était officiel et c'était clair. Et je n'ai jamais mangé de ce pain-là. Certains en sont encore aux histoires qui pouvaient se passer après et pendant, malheureusement, la guerre d'Algérie. Ça suffit, cette manière de faire et cette manière de faire de la politique.
Pas de cabinet noir réalisé avec François Hollande.
Jamais. Ce sont des accusations diffamatoires.
Mais peut-être. Il faut poursuivre.
On va s'engager à poursuivre dans un débat comme celui-là. On ne fait qu'alimenter. Regardez. Le fait que des gens puissent penser aujourd'hui sur ce sujet qui a un doute, la justice est indépendante. Et il n'y a jamais eu de cabinet ni noir, ni blanc, ni gris, ni jaune. Jamais.
Donc,
et ça fait partie de l'honneur de François Hollande et de ce gouvernement.
C'était votre réponse à François Fillon qui dit qu'il
demande des comptes à François Hollande. Pas représenté. Il y a eu des primaires qui ont donné comme vainqueur Benoît Hamon, candidat socialiste, qu'on écoute. C'était lors de son meeting à Bercy.
Voilà ce que je suis, candidat pour. Pour plus de justice, pour plus d'écologie, pour plus de fraternité, pour un futur désirable.
Alors à l'instant même sur BFM, Michel Sapin vient de dire que son candidat pour l'élection présidentielle, c'était Benoît Hamon, qui est le candidat de Stéphane Le Foll. Pour qui va voter Stéphane Le Foll ?
Non, mais sur ce sujet, moi je m'étais exprimé. ça va. Vous savez, je savais qu'en venant, j'aurais cette question.
C'est assez légitime quand même.
Mais c'est tout à fait légitime, mais vous l'avez posé la question.
Voilà. Donc on attend la réponse.
Le seul problème, c'est que vous attendez... Une réponse.
La réponse.
Non, mais
quand on pose une question,
Donc je. On va pouvoir se répondre. Donc je vais répondre à cette question, tout simplement, et je l'ai déjà dit sur France Inter il y a 2 mois. Moi, je vais avoir 2 choses qui vont me guider. La première, c'est une fidélité au Parti Socialiste. Fidélité que je partage avec beaucoup de députés aujourd'hui, qui sont dans leur circonscription et qui ne s'expriment pas non plus. Fidélité aussi à ce que nous avons fait et fierté de ce que nous avons fait. Et ça, je le porte avec d'autres aussi. Quand d'autres n'en parlent même pas. Moi, cette fierté, je l'ai fait parce que j'étais socialiste. Parce que j'ai participé à un gouvernement de François Hollande.
Donc je et moi, je le revendique. Il faudrait que Benoît Hamon assume un peu plus le bilan.
Mais c'est, je ne ferai pas la campagne de Benoît Hamon. C'est Benoît Hamon qui fait sa campagne.
Attendez, fidélité au Parti et Socialiste
moi, et la deuxième ma chose. Fidélité, ouais. Ça a été de, justement de ne pas participer à tout ce qui a pu être dit contre Benoît Hamon.
Deux choses.
Il a fait son choix de campagne. Il fait sa campagne.
À laquelle je ne participerai pas.
Et je dis, ben non, je n'ai pas participé. D'abord parce que je n'ai pas été invité.
Attendez, deux choses de vous
et deuxièmement parce que je fais mon travail. Et puis le deuxième point, je l'avais dit à l'époque, c'est que moi je vais regarder jusqu'au bout. Le risque pour moi, c'est que la France bascule du côté de l'extrême droite. Et chaque fois que je regarde les sondages le matin, je constate qu'elle est à un niveau jamais atteint. Et le deuxième, c'est quand j'entends en plus ce matin François Fillon, c'est de me dire que là, je ne laisserai pas. Et je prendrai des responsabilités comme d'autres d'ailleurs. Mais s'il y a un risque de voir Marine Le Pen, non seulement en tête, avec un duel avec François Fillon pour le deuxième titre, et il y a aujourd'hui.
Les courbes sont en train d'un peu.
Oui,
y a un
elles
risque.
Sont. Je regarde tout ça. Et ma responsabilité politique, à ce moment-là, ça sera de m'exprimer.
C'est-à-dire.
Mais moi, je suis Stéphane, correct avec Benoît Hamon.
Stéphane Le Foll, vous pourriez ne pas voter Benoît Hamon si vous sentez qu'il
y
a un risque.
Eh bien, vous avez répondu.
Et ça, vous décidez. Mais
attendez, vous avez posé une question.
Ouais.
Je vous ai répondu. Donc, on va pas refaire
Michel,
une fois le débat.
Michel Sapin, votre collègue de l'économie, dit, moi, je voterai Benoît Hamon parce que c'est le candidat de mon parti. Vous, vous n'en êtes pas là aujourd'hui.
Mais Michel Sapin.
Oui, oui, le livre. C'est un grand garçon.
C'est un grand garçon. Garçon et moi aussi.
Ça me permet de poser la question.
Non, mais, parce qu'on a toujours l'impression que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, Michel Sapin serait celui où, que je devrais suivre et commenter.
Ah bon?
Michel Sapin, il fait ce qu'il veut. Stéphane Le Foll. Il a été loyal et fidèle pendant plus de 20 ans.
À la troisième
maintenant,
personne.
Il est celui qu'il est et je prends mes décisions tout seul. Voilà.
Ça veut dire que le marqueur, ce sera les sondages, Stéphane Le Foll.
Ça ne veut pas dire que le marqueur, ce soit les sondages.
Bah, un peu.
Mais parce que vous pensez que quand vous avez les sondages, et Jean-Michel Apathy disait, vous rencontrez du monde. Vous croyez que je ne rencontre pas du monde? Moi, je vis dans la Sarthe. Hein. Mmh. Si vous voulez, le samedi matin, vous venez au Paty Saint-Lazare, vous verrez que j'y suis tous les samedis. Donc les gens qui viennent me voir, je sais ce qu'ils me posent comme question. Donc, je regarde, et les sondages, et ce que j'entends, ce que je vois, et je fais des réunions suffisamment avec beaucoup de monde.
Ce que vous voyez ressemble au sondage?
Ah, ce que je vois, oui, et ce que j'entends, ça ressemble à un doute, ça ressemble à une inquiétude, et ça ressemble aujourd'hui à une question qui, à chaque fois, qui m'est posée, comme celle que vous avez posée ce matin. Et à chaque fois, j'essaye de répondre avec ce que je viens de vous dire. Il y a des risques dans la vie politique qu'il ne faut pas prendre. Voilà.
Et l'info en une minute, ça ressemble à Victor Mattel, il est 8h50.
L'avenir de Fessenheim en Alsace entre les mains des administrateurs indépendants d'EDF. Vote prévu ce jeudi en conseil d'administration sur France Info. Une déléguée CGT dénonce la pression politique exercée sur la direction d'EDF pour fermer la centrale. Des pépiniéristes, ils sont 80 blocs depuis ce matin, les accès au port de Bastia pour dénoncer l'arrêté préfectoral limitant les importations de végétaux en Corse à cause de la bactérie qui détruit les oliviers. L'enquête sur les conditions d'attribution du chantier du stade Pierre-Mauroy roi de Lille, le président de la métropole lilloise, est mis en examen pour favoritisme et corruption. La justice cherche à comprendre comment le groupe Eiffage, pourtant plus cher que ses concurrents, a obtenu le marché. C'était en 2008. Plus de 300 morts et 330 blessés. Nouveau bilan en Colombie après la coulée de boue du week-end dernier à Mocoa, dans le sud-ouest du pays. Et puis une victoire 4-0 contre Avranches. Le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France de football. Ce sera face à Monaco dans 3 semaines. L'autre demi-finale au posera Angers à Guingamp.
France Info. Stéphane Le Foll est avec nous jusqu'à 9h sur France Info. Dans l'émission politique, Jean-Michel Apathy pour la question.
Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, vous rendez compte des engagements...
Justice, ça va, il y a le ministre de l'Agriculture aussi, n'oubliez
vous
pas.
Rendez
et
compte,
de la forêt.
Vous rendez compte des engagements de François Hollande durant sa campagne électorale. Il avait promis Fessenheim sera fermé. Conseil d'administration aujourd'hui d'EDF et visiblement le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, résiste à l'idée de la fermeture.
Oui, qu'est-ce que vous lui dites? J'ai parfaitement conscience des résistances ou des réticences qui existent. J'avais moi-même, pendant la campagne, rencontré tous les salariés de Fessenheim. Et je leur avais dit, mais il y a quand même un moment, je comprends hein, qu'un outil de travail, des salariés cherchent à défendre un outil de travail. Mais je leur avais dit, mais un jour, il faudra arrêter des centrales. Il y en a qui vont fermer. Enfin, c'est comme si c'était éternel. Et la décision qui avait été prise, c'est pour trouver un mix énergétique qui fasse baisser le nucléaire, sur une centrale qui est ancienne et qu'on devait fermer et pour permettre justement de commencer aussi à travailler sur ce qu'on appelle le démantèlement des centrales nucléaires. Quand est-ce qu'on va commencer? C'est vrai que le premier pas est toujours le plus difficile. Et je respecte les salariés de l'entreprise.
Mais là, le conseil d'administration et le PDG d'EDF, vous leur dites quoi ce matin?
Mais ce qu'a dit Ségolène Royal, il y a eu un engagement qui a été pris. Ils sont dans une responsabilité qui est de respecter ce qui avait été pris comme engagement.
Vous pourriez démettre l'entreprise.
Oui, mais est-ce que vous pensez que EDF n'a pas été défendu? Est-ce que vous pensez que lorsqu'on recapitalise EDF aujourd'hui, ça n'a pas été défendu? Est-ce que vous pensez que tout le travail qu'a fait le gouvernement sur le rapprochement EDF
a des doutes, c'est qu'il hésite. Ne sais pas.
S'il a des doutes, c'est qu'il hésite.
Sur le fait que EDF a été défendu.
A été défendu sur Areva. Ce qui a été engagé par le gouvernement, c'est plus de 3 milliards de recapitalisation. Vous croyez qu'on n'a pas défendu EDF?
Vous pourriez. Donc, mais concrètement, est-ce qu'on leur tord le bras, monsieur Le Foll?
Mais tord le bras. Mais de toute façon, depuis le début, ils ne. Je suis bien placé pour le savoir. Je vous répète que dès la campagne présidentielle, j'ai eu ce débat et je l'ai eu avec des salariés.
Est-ce que vous pourriez démettre le PDG, puisque l'État a 83% du capital
d'EDF? D'abord, on va attendre.
Si ce matin, il résiste ne conduit pas la résolution de représenter au Conseil d'administration.
Pour l'instant, le Conseil d'administration n'a pas eu lieu, donc on ne va pas anticiper.
D'accord.
Vous savez que faut de temps en temps aller dans l'ordre. Donc, on n'a pas encore ce Conseil d'administration qui s'est réuni. L'engagement avait été pris, et je le rappelle, il faudra à un moment que chacun prenne la mesure du fait qu'il y a des centrales qui vont fermer. Et il faut bien commencer pour mettre en place une filière de démantèlement. C'est aussi simple que ça. Si c'est difficile à accepter pour des salariés, j'en ai parfaitement conscience.
Gilles Bornstein.
Alors, dans l'actualité, toujours la Guyane, conflit difficile au point que la secrétaire d'État à l'Outre-mer, Erika Breitsch, a dit ceci à Cayenne.
Au-delà de ma personne, de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais.
De quoi s'excuse-t-elle exactement?
Du fait que le peuple guyanais a le sentiment que l'État n'aurait pas apporté les réponses à la hauteur de ce que sont les besoins qui s'expriment au niveau du peuple guyanais. C'était ça.
Ça a rendu Bernard Cazeneuve complètement fou.
Je ne crois pas. Moi, j'ai vu Bernard Cazeneuve le lundi avant le départ, en début de semaine avant le départ pour la Guyane. Je l'ai vu au moment de la réunion le lundi suivant. Je l'ai eu au téléphone à plusieurs reprises. Il n'a jamais exprimé quoi que ce soit qui puisse être... qui a été relaté, d'ailleurs, je l'ai vu dans le Canard enchaîné. Donc, je le dis tranquillement. Et en même temps, c'était une manière de dire à des gens qui sentaient et qui voulaient exprimer justement ce sentiment d'abandon, qu'il y a eu, bien sûr, des retards qui ont été pris. Et je peux vous le dire, sur les budgets qu'on a hérités, hein, le budget de l'Outre-mer n'avait cessé de diminuer sous les 10 dernières années avant que nous arrivions. On l'a fait remonter. Le vrai problème dans tous ces débats, c'est qu'à chaque fois, on croit qu'avec une enveloppe, on règle tous les problèmes. Et c'est le débat sur le nombre de milliards. Mais on ne change rien simplement avec des enveloppes ou avec des lois d'ailleurs. Ça se règle pas d'un coup de cuir à peau. Il y a eu des retards qui ont été pris.
Les enveloppes, ça aide. Hein.
Mais bien sûr que ça aide. Mmh. Mais personne n'a dit le contraire. Ouais. Mais moi, j'ai vu hier, par exemple, que entre début de la semaine et hier, on était passé de 2 milliards à 3 milliards. On peut toujours demander des milliards. Mais amener des milliards, c'est derrière. Il n'y a pas les leviers qui vont mettre en œuvre de manière méthodique et avec l'objectif recherché. Plus d'écoles, rénovation des hôpitaux, aménagement routier, responsabilité en termes de logement.
Ils demandent de la sécurité aussi.
Sécurité. La Guyane aujourd'hui, et il y a eu des engagements qui avaient été pris par Bernard Cazeneuve, plus de 70 gendarmes et policiers sont déjà arrivés. Vous savez quel est le taux de... le rapport entre la population et le nombre de policiers? C'est pas 10%. On est déjà à un taux de police et de gendarmerie qui est extrêmement élevé. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes énormes de frontières. On va se parler franchement, avec une immigration clandestine massive, avec des gens qui rentrent, qui sortent, qui repartent, et c'est une vraie difficulté. Vraie difficulté. On pourra rajouter énormément de policiers. Hein. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à réguler cette immigration. Sinon, on n'y arrivera pas. Et on pourra toujours demander plus de milliards, hein, mais ça sera à rajouter. Donc il faut aussi être franc, clair, et se parler clairement.
Voilà, Jean-Michel, il nous reste 20 secondes.
Le quinquennat se termine, vous n'en avez pas marre un peu de la politique? Vous allez être candidat encore aux législatives?
Oui, je vais être candidat encore aux législatives. En tout cas, je ne suis pas mécontent d'arriver au bout de 5 ans et de pouvoir faire...
Dormir.
Mais vous avez toujours envie de faire de la politique?
Moi, je suis fidèle à un département, à une histoire, un territoire. Et donc, je le fais aussi parce que cette fidélité, elle a aussi une valeur d'éthique, de rapport aux gens. Si ceux qui me rencontrent de temps en temps me disent « Monsieur Le Foll, vous restez bien là », je dis « Oui, je reste là, je suis là ».
Et merci d'être venu.
Merci.
Sur France Info.
Et nous sommes là demain également, d'ailleurs.
Oui, je sais, et vous êtes là pour longtemps.
Oh oui.
Vous n'avez pas marre de faire la politique.
Bon, ça, c'est pas sûr.
On ne fait pas de politique, nous.
Vous avez posé des questions politiques.
Ah non, on en a pas mal.
Allez, à demain.